Europe 1, il est 8h.
Je n'étais pas prête du tout à supporter cette nouvelle. On a l'impression d'être un peu le docteur Maboul ou de devoir tirer des pièces. On se dit, mais il y a peut-être autre chose à faire avant, il y a peut-être d'autres techniques.
D'autres techniques pour éviter les opérations lourdes grâce à la radiologie interventionnelle, une technologie d'avenir que l'on va vous présenter dès le début de ce journal.
Appel à la grève et aux manifestations partout en France contre la réforme des retraites avec ses opposants qui jouent leur va-tout.
Bien sûr qu'on est fatigué, mais on est toujours déterminé. C'est notre vie, c'est notre peau qu'on défend nous. C'est pour ça qu'on lâchera pas.
Le projet de réforme des retraites qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et jeudi prochain lancement de la conférence de financement, comme l'indique Édouard Philippe ce matin dans le journal La Croix.
Sur ce sujet, votre invité à 8h15, Sonia.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, quelle piste de financement envisage-t-il pour éviter l'âge pivot? Son regard aussi sur cette journée de mobilisation à laquelle la CFDT ne participe pas.
26 morts, le bilan du virus chinois grimpe encore, plus de 30 millions de personnes confinées, la cité interdite fermée dès demain aux visiteurs.
Emmanuel Macron veut un procès pour le meurtrier de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive tuée parce que juive. Le suspect a été déclaré pénalement irresponsable il y a un mois.
Même si à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là.
Europe 1, 8h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Justement, écoutez le monde changer, et notamment le monde de la médecine. De plus en plus de chirurgiens dénoncent des interventions chirurgicales trop fréquentes, alors qu'il existe des alternatives.
Est-ce qu'on abuse du bistouri en France? Comment éviter les opérations lourdes comme l'ablation de la prostate ou de l'utérus? L'alternative s'appelle la radiologie interventionnelle. Et elle est 2 à 4 fois moins coûteuse pour la sécurité sociale qu'une intervention classique.
Une spécialité, il est vrai, méconnue du grand public que nous fait découvrir Victor Dolande pour Europe 1. Il s'est rendu dans le service de l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour rencontrer ses chirurgiens sans scalpel.
Guylaine, 46 ans, a connu il y a 2 ans des règles très abondantes, 10 jours par mois. Son gynécologue lui diagnostique un fibrome utérin, une tumeur non cancéreuse, bénigne donc, mais très inconfortable. Il lui conseille immédiatement une ablation de l'utérus.
J'étais pas prête du tout à supporter cette nouvelle. On a l'impression d'être un peu le docteur Maboul ou de devoir tirer des pièces. On se dit, mais il y a peut-être autre chose à faire avant, il y a peut-être d'autres techniques.
Après une consultation avec un radiologue interventionnel, on lui préconise ce qu'on appelle une embolisation. Marc Sapoval, radiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, nous emmène au bloc opératoire. Il nous explique cette technique.
On va naviguer dans les artères au moyen d'un cathéter qu'on va manipuler.
Face à lui, un immense écran qui l'aide à être encore plus précis. Il injecte à la patiente des mini-billes dans le fibrome.
Les billes vont asphyxier les fibromes, donc ils vont mourir et la patiente va avoir une amélioration de ses symptômes lors de ses prochaines règles.
Après cette opération, Guylaine n'est restée qu'une seule nuit à l'hôpital. Elle a pu retravailler une semaine plus tard, aucune cicatrice et surtout, elle a conservé son utérus.
Voilà, et pas de bistouri ni de scalpel, c'est aussi ça le monde qui change et les technologies d'avenir.
Le retour des cortèges contre la réforme des retraites, appel à la grève et aux manifestations partout en France.
Cortège prévu à Nantes, Lyon, Caen, Toulouse, à Paris, départ 11h depuis la place de la République, direction Concorde. Et dès hier, les contestations ont pris la forme de marches au flambeau comme à Rennes, environ 1500 personnes qui n'entendent pas baisser pavillon au micro de François Coulon.
J'y crois encore, en tout cas j'irai jusqu'au bout et on verra ce qui se passera après, mais même si on gagne pas, je continuerai à me battre parce que si je me bats pas, je suis sûr de pas gagner.
Bien sûr qu'on est fatigué, mais on est toujours déterminé. Donc je pense que ça va être une affaire au long cours. Peut-être que ça peut passer devant le Parlement, mais je pense qu'il est en train de préparer de toute façon sa défaite. Et moi j'y crois et on sera là, toujours là, et même si c'est compliqué, même si effectivement on est fatigué. On est dans une guerre de tranchées, mais c'est notre vie, c'est notre peau qu'on défend nous. C'est pour ça qu'on lâchera pas.
C'est juste une question de survie. Si ce projet passe, après tout va être détricoté derrière. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne, il faut qu'on tienne. Si le gouvernement veut jouer le pourrissement, ça va fermenter et ça risque d'exploser.
Ça risque d'exploser, dit cette manifestante. Et du côté du gouvernement, le projet de loi de réforme des retraites est aujourd'hui à l'ordre du jour du Conseil des ministres.
Une étape importante qui donne aussi le coup d'envoi des débats sur le fond du projet. Ce sera à l'Assemblée nationale à partir du 17 février. Alors que contient précisément ce texte décrié par certains? François Geffrier l'a étudié pour nous.
64 articles, 141 pages et d'abord la fin des 42 régimes de retraite existants, même si, notamment pour les marins, le texte précise que ce sera réglé plus tard par ordonnance. Le projet de loi explique le système du point, mais ne fixe pas sa valeur. Combien devra-t-on cotiser pour gagner un point? Et une fois qu'on est à la retraite, quelle somme d'argent ce point nous rapportera? Ces montants seront fixés par la future Caisse nationale de retraite universelle. Précision, article 9, la valeur du point ne pourra pas baisser, et ce, malgré la règle d'or, inscrite un peu plus loin, qui impose au système d'être toujours équilibré sur des périodes de 5 ans. Dans ce texte, un âge d'équilibre est bel et bien prévu. Ce n'est plus celui que proposait Édouard Philippe dès 2022 pour équilibrer le système actuel, mais c'est tout de même un principe de bonus-malus applicable en 2037 et qui dépendra de l'espérance de vie. Cet âge d'équilibre sera fixé lui aussi par la future Caisse nationale. Enfin, plusieurs articles autorisent le gouvernement à agir par ordonnance, notamment pour définir comment se passera la transition du système actuel vers le système universel.
Ajoutons que la conférence de financement entre partenaires sociaux débutera jeudi prochain. Annonce du Premier ministre Édouard Philippe dans un entretien au journal La Croix. Et sur ce sujet, votre invité Sonia à 8h15.
Il est justement l'initiateur de cette conférence de financement, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. C'est une affaire qui a provoqué et qui provoque encore une profonde indignation. Le meurtre de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive massacrée et défenestrée en 2017. Parce qu'il faut insister sur ces mots massacrée et défenestrée, ce sont les mots qui traduisent l'horreur. Le suspect a été déclaré pénalement irresponsable par la cour d'appel de Paris le mois dernier.
Et au risque de bousculer la séparation des pouvoirs, Emmanuel Macron veut un procès. Le président l'a dit hier en Israël devant des expatriés français.
Je veux vous dire d'abord que la justice française a reconnu le caractère antisémite de ce crime. Et ce caractère antisémite, personne ne peut le remettre en cause. Ensuite, la justice doit avoir un lieu. Et je sais la demande de procès qui doit se tenir. La question de la responsabilité pénale est l'affaire des juges. La question de l'antisémitisme est celle de la République. Même si, à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là.
Bonjour Christian Saint-Palais.
Bonjour.
Vous êtes avocat pénaliste, président de l'association des avocats pénalistes. L'affaire Sarah Halimi, c'est une affaire qui nous saisit tous d'effroi. Vous comprenez que le président se soit exprimé sur cette affaire ?
Mais je comprends qu'il soit sensible à l'émotion qui s'exprime, d'autant qu'elle a gagné tout le pays, c'est vrai. Je n'admets pas qu'il s'exprime sur une affaire judiciaire en cours, en donnant le sentiment qu'il critique la décision qui a été rendue, alors même, vous le savez, que la Cour de cassation doit à terme s'exprimer sur ce dossier.
Emmanuel Macron semble dire qu'il faut organiser un procès à tout prix pour répondre à la demande de la partie civile. Pour vous, il fait pression sur la justice ?
Alors je pense que les juges savent résister à de telles pressions, mais je pense en tout cas qu'ils se trompent. Ils se trompent en disant par exemple qu'il faut absolument répondre à la demande des victimes en organisant un procès. Non, on n'organise pas un procès à tout prix. On ne juge pas ceux qui étaient déclarés irresponsables, ceux qui ont été reconnus irresponsables au moment du passage à l'acte. C'est un principe auquel nous devons tenir, ce sont des questions de dignité. Et il ne faut pas laisser croire que la justice ne serait pas passée. La justice est passée. Toutes les énergies ont été mobilisées, les juges, les avocats, les policiers, les gendarmes, les experts psychiatres. Et une audience publique a eu lieu où on a tranché une question fondamentale. Peut-on organiser un procès en raison de l'état mental de mise en cause ? La Cour a décidé que non. On verra si la Cour de cassation valide cette décision, mais en l'état, il n'y a pas autre chose à dire. On ne peut pas critiquer cette décision en disant qu'elle priverait les parties civiles d'un procès, ce n'est pas vrai.
On verra donc ce qu'il en sera, évidemment, sur cette affaire qui prend aux tripes. Merci Christian Saint-Palais d'avoir été en direct avec nous dans le journal de 8h.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant. La cité interdite fermée dès demain aux visiteurs, le monument historique le plus célèbre de Chine, victime aussi du virus. A tout de suite sur Europe 1.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Les festivités du Nouvel An chinois annulées. La ville de Wuhan et ses environs confinés. Plus de 30 millions d'habitants en quarantaine. Et puis on vient de l'apprendre, le parc de Disneyland à Shanghai fermé jusqu'à nouvel ordre. Et puis autre décision, la cité interdite à Pékin fermée aussi dès demain aux visiteurs.
Rendez-vous compte, hein, 30 millions d'habitants en quarantaine. Des mesures radicales pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Sur place, Sébastien Lebelzik.
À quelques heures du Nouvel An chinois, les rues de Pékin sont quasi désertes. Les festivités de la fête du printemps sont toutes annulées et dès demain, c'est la Cité interdite, le monument le plus visité de Chine, qui fermera ses lourdes portes aux touristes.
J'ai entendu aux informations que les fêtes du Nouvel An sont annulées presque partout. C'est triste, mais on n'a pas le choix, on doit rester à la maison. C'est encore pire que je ne pensais vraiment. On n'a pas le choix de toute façon.
Pékin accueille chaque année des millions de touristes pour la fête du printemps. Mais cette année, beaucoup ont dû changer leur plan à la dernière minute.
Moi, je suis en bonne santé, mais bien sûr, on a peur du virus. Alors, on préfère annuler nos déplacements et toutes les visites que l'on avait prévues.
La psychose monte dans le pays. Dans le centre de la Chine, foyer de l'épidémie, 8 villes, soit plus de 20 millions de personnes, ont été placées en quarantaine et coupées du reste du monde jusqu'à nouvel ordre. Les écoles resteront fermées, même après les congés du nouvel an. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Un peu de musique dans ce monde, ça va nous faire du bien. Le premier album de la chanteuse Suzanne, nommé aux Victoires de la musique.
Demain, je promets que j'irai faire les trucs que j'ai toujours pas fait. La flemme.
Longtemps cantonnée aux premières parties, aujourd'hui c'est elle qui est sur le devant de la scène. Suzanne et son premier album que nous fait découvrir Angèle Châtelier.
Lors de ses concerts sur scène, il n'y a qu'un synthétiseur et c'est tout. C'est elle, Suzanne, qui occupe l'espace, toujours vêtue d'une veste bleue et blanche, comme pour jouer un rôle dès qu'elle se présente au public, ici au Festival des Vieilles Charrues.
Est-ce que t'es là, les charrues ?
Mais cette avignonnaise de 28 ans est une habituée du spectacle. Suzanne a fait de la danse classique pendant 15 ans, ce qui n'a pas toujours été un bon souvenir, à en croire son titre « Pas beau », réminiscence de ses mercredis au conservatoire lorsqu'on lui reprochait le moindre kilo en trop. Ses chansons rythmées comme celle de Stromae parlent aussi bien de harcèlement que de l'homophobie ou des réseaux sociaux.
Ta vie en scène, c'est qu'une mise en scène ta vie.
La première fois que Suzanne est montée sur scène, on lui a dit « toi toi ». C'est une expression tirée de l'allemand pour souhaiter bonne chance. Et c'est aussi le nom de son premier album, comme pour s'encourager à aller vers le succès.
On a cassé la planète, il est où le SAV ?
Moi, je découvre avec Angèle Châtelier.
Moi aussi.
Suzanne.
On adhère.
Complètement.
Suzanne, nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation. Et quelle révélation saine.
8h13, vous êtes sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk.
L'homme qui a fait pivoter le gouvernement sur la réforme des retraites, le leader de la CFDT, Laurent Berger, salué par les uns comme un habile négociateur. L'homme du compromis, ce qui fait dire à ses détracteurs qu'il est un usurpateur. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1, 8h14.